Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, je vous propose qu'on réécoute ensemble des extraits des temps forts de cette semaine, comme chaque week-end. Et on commence avec le Loft Music. Mardi, Yvan Cujus recevait le groupe Boulevard des Airs pour un live inédit de leur titre Bruxelles, en featuring avec Lounis, les grands gagnants du concours Centre Accord Sud Radio. Un mélange de deux univers qui s'accordent à merveille, comme vous allez l'entendre.
Le meilleur de Sud Radio.
On vous écoute en direct dans le Loft sur Sud Radio, Lounis, Boulevard des Airs, Bruxelles, en live.
Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi mielleuse que je répugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles.
Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tu rentres à Bruxelles. Si j'ignorais tout de toi, je resterais tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mettrais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tu rentres à Bruxelles.
Et quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je descends vers Grenier sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je nous imagine même en camping à Bruxelles.
Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore.
Il y a celles qui restent plantées à Bruxelles.
Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Si j'étais celui, toi tu es la seule.
Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Tu rentres à Bruxelles. Tu rentres à Bruxelles.
C'est beau, en direct dans le Loft sur Sud Radio, Lounis, Boulevard des Ailes, Bruxelles. C'est beau, c'est... et puis voilà, la magie, c'est à la base et au centre du truc, les deux voix qui s'accordent parfaitement.
C'est ça, mais pas que les deux voix, parce que sur ce morceau, ce qui est intéressant, c'est que les voix s'accordent, c'est j'espère, parfaitement, en tout cas pas trop mal. Mais il y a une grande place qui a été laissée par les arrangeurs de Boulevard des Airs aux arrangeurs de Lounis, enfin à Lounis.
Ouais.
Et c'est vraiment un duo par la voix, par les instrus, par la prod, tout. C'est un vrai mélange des deux styles.
Oui, c'est ça. Les deux univers se mélangent, en fait. Il y en a un qui prend le dessus à un moment donné. Si. Qu'est-ce qui marque la patte d'un univers, finalement? C'est quoi? C'est une sonorité particulière, un ukulélé vous l'analysez, ça? Une tourne, par exemple, une manière, c'est quoi qui fait...
Je sais pas, c'est vrai que...
Flo.
Nous, on commence pas mal de chansons avec la guitare. Donc ouais. Souvent, c'est vrai que les Amène-moi, Je me dis que toi aussi, etc. sont faites autour de riffs de guitare. Dans Bruxelles aussi, c'était le cas. Et c'est vrai que ce qui a été intéressant avec l'Unis, c'était que ben, nous, de Bruxelles, on a fait 55 versions déjà. Et on s'est dit que l'intérêt pour nous et pour les gens, c'était justement de revisiter complètement cette manière de faire. Donc nous, on leur a donné la grille d'accord en leur disant, voilà, faites ce que vous voulez. De toute façon, si vous plantez, le public, il vous en voudra à vous. Donc ils ont fait ça très, très bien. Ils ont fait ça très, très bien. Et c'est vrai qu'on reconnaît énormément leur univers. Pour ceux qui ont déjà écouté ce qu'ils faisaient avant, on reconnaît vraiment leur univers, leur patte, et je trouve que c'est génial parce que nous, on a quelque part redécouvert notre morceau, et j'espère que les gens le redécouvriront avec autant de plaisir que nous.
Oui, c'est bien. Hein. Ouais. En fait, il a tout dit. C'est parce que c'est ça.
Merci beaucoup.
Quand on démarre, ce qui est super important, c'est ça. C'est d'être en plus autonome, de ne pas avoir forcément besoin d'aller chercher un producteur extérieur, d'être soi-même détenteur de son univers et de ses idées. Quoi.
Bah, c'était vraiment la démarche que, ouais. qu'on voulait avoir. C'était lancer le truc vraiment nous-mêmes au départ.
Ouais.
Lancer des morceaux et voir ce qui se passe. Donc, on a acheté en fait, des trucs. Voilà, on a beaucoup travaillé et puis il faut bah, très rapidement voilà les petits tremplins voilà ça nous a
ça comment nous ça, a les petits tremplins sur les grands tremplins
non non Louis non il y a eu des petits avant le vôtre
ah bon c'est bon des petites radios des
on n'est pas arrivé sur Sud Radio direct hein.
ça se mérite Sud Radio ça va pas ou quoi
ceci dit regarde Romy tous les artistes aujourd'hui en tout cas depuis à peu près une dizaine d'années tous les artistes sont réels quasiment tous.
Oui, réalisateur.
C'est fini le temps où tu avais un ingé son un réal un machin tous les postes se cumulent en fait. Les
c'est
musiciens
vrai.
Aujourd'hui sont arrangeurs, réal.
Mais pourquoi pour des soucis de d'économie ou bien pour artistique?
Parce qu'il faut se multiplier et à cause de l'économie, je pense, ouais. Parce que qu'il faut savoir prendre le son, écrire pour tu vois, savoir être multi-instrumentiste, faire de la réal. Et aujourd'hui, ils font tout ça quoi.
Ouais. On a accès aussi vachement plus facilement aux outils au fait aussi avec Internet. Aujourd'hui, on peut tout faire. Enfin, avec les ordi, Internet, tout ça, on peut tout faire chez soi quoi. Alors qu'avant, il fallait un studio. C'était beaucoup d'argent. Aussi.
Ouais, c'est ça. Et puis tu peux faire mixer à Los Angeles par un mec, tu lui envoies en WeTransfer, il fait le mix là-bas, tout est facilité quoi.
Le meilleur de Sud Radio Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous de 20h à 21h dans le Loft Music avec des lives inédits. Restez sur Sud Radio, on revient dans un instant avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur Jean-Michel Blanquer et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, Manuel Valls. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner et de réécouter avec vous des extraits des temps forts de cette semaine. Et on continue d'ailleurs avec l'équipe des Vraies Voix. Mercredi, pendant leur tour de table de l'actualité, Philippe Rossi et ses chroniqueurs Françoise Degois, Philippe David et Philippe Bilger sont revenus sur les propos extrêmement flatteurs de Jean-Michel Blanquer à l'égard d'Emmanuel Macron. Écoutez.
Bonjour les enfants.
Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle?
Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment.
T'as quelque chose à dire?
Je suis Darmanin.
Je ne suis pas très éloigné de Gérald.
Ah bon?
Oui.
Le tour de table.
De l'actualité.
Allez, le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. Philippe, alors c'est une flagornerie qui passe mal, très mal, celle du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Oui, j'ai toujours aimé les univers de pouvoir, d'abord parce que la politique me passionne et ensuite parce que l'univers de pouvoir est souvent le siège d'infinis ridicules. Et j'espère dans ma vie avoir toujours résisté, j'espère, à l'esprit courtisan et n'être jamais devenu un courtisan où que ce soit, sauf en disant que j'admire profondément Philippe David.
Quel flagorneur, mais tu vas pas t'y mettre,
absolument.
Tu vas pas faire ton Blanquer.
Non. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que la flagornerie exige tout un art. On peut dire du bien, mais il faut pas trop en dire et il faut que ce soit plausible. Et Blanquer a dit, en gros, je résume, Philippe, il a dit « Le président de la République est remarquable. Maintenant, il devient un grand connaisseur parce qu'il lit beaucoup de livres sur les épidémies et il maîtrise tout ça. »
Si vous me le permettez, je vous lis la vraie phrase quand même. Le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires et ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne. Voilà ce qu'il a dit, Blanquer.
Et donc, Emmanuel Macron, qui est tout sauf un imbécile, a perçu ce qu'il y a peut-être d'un peu hyperbolique là-dedans et a été agacé, plus qu'agacé, par cette flagornerie de Blanquer. Donc je dis flagorné. C'est mal de toute manière, mais quand on le fait, il faut vraiment être doué. Il faut pas que ce soit trop, il faut pas que ce soit trop peu. Mmh. Il faut trouver la juste mesure.
Enfin,
et la Blanquer a dépassé les bornes.
Le plus drôle dans tout ça, ce sont les détournements sur Twitter, parce qu'évidemment, ça a beaucoup fait réagir. Quand Emmanuel Macron va chez le médecin, c'est parce que le médecin est malade. Voilà ce qu'on peut lire sur Twitter.
Et il faut aller voir le hashtag Emmanuel Macron fact.
C'est ça, c'est extraordinaire.
Vous voyez Arnold Schwarzenegger à l'hôpital et en dessous il y a marqué Arnaud Schwarzenegger vient de serrer la main d'Emmanuel Macron. Quand Google, mec, il est...
quand Google ne trouve pas quelque chose, il demande à Macron.
Non, mais, je pense que ce matin, Emmanuel Macron a fait faire par ses conseillers un rectificatif. Je pense que c'est ça dont vous parlez, Philippe, qui a été immédiatement mis en ligne par Le Figaro, parce qu'ils ont vu le danger, ils ont vu le foutage de gueule, pardonnez-moi, général. Pourquoi ? Parce que tout vient du papier du Monde. Mmh. Et moi, je ne sais pas ce qui me fait le plus rire et que je trouve le plus grotesque. Est-ce que c'est l'ego surdimensionné d'Emmanuel Macron ? En ce sens, il est quand même dans la lignée de ses prédécesseurs. Je pense que la 5e pousse à ça, en plus de ça. Mais lui, il pousse ça au paroxysme. Il ne se trompe jamais et tout procède de lui. Lui, il sait tout. Est-ce que c'est la flagornerie de Blanquer ? Ou est-ce que c'est le papier même du Monde ? Le papier même du Monde qui titre Emmanuel Macron l'épidémiologiste ? Et ça n'est qu'un résumé et un rassemblement de témoignages de conseillers qui expliquent qu'il peut même maintenant challenger Olivier Véran. Moi, ça me fait délirer, ces gens-là, pour
Sauf
Macron.
Sauf que le titre du Monde, c'était ironique.
Non, il n'y a aucune distance. Le problème du titre du Monde, c'est que vous l'interprétez avec l'ironie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de distance dans l'écriture. Et là, on se dit, mais au secours, où est-ce qu'on est ? Vous entendez, c'est les mêmes qui vous disent Macron, il joue au tennis comme Federer.
Je vous ai repris sur Twitter. Ouais. Vous avez écrit qu'il volaillait mieux que Federer. J'ai dit que vous aviez été odieuse avec lui. Parce que Federer n'est pas le plus grand volleyeur de l'histoire. On aurait dû le comparer à McEnroe ou à Edberg.
Non, mais bon.
Qui volaillait encore mieux.
Excusez-moi de vous le dire. Macron est arrivé à l'Élysée, vous aviez des conseillers, son professeur de tennis qui disait il y a un peu de Federer chez lui. Les gens sont dingues, ils jouent magnifiquement du piano. Donc moi c'est pour ça que
Mozart,
j'ai dit
voilà,
ou Glenn Gould. Non mais honnêtement, on devient dingue. Il faudra qu'on s'interroge tous collectivement sur un moment donné la complaisance autour de ce personnage.
Si les journalistes de l'équipe sont autant dans la flagornerie que Le Monde, j'imagine que la France gagne l'Euro au mois de juillet prochain et la une de l'équipe va être le lendemain Macron, le buteur. Je pense que ça va être ça.
Philippe Bilger, pour finir. Philippe.
Mais vous êtes une républicaine, Françoise. Comment pouvez-vous douter de tous les talents qu'on prête au président de la République ? C'est évident.
Je vous adore.
Non, elle est sortie de l'arc républicain, c'est fait.
Non, c'est pas ça. Mais vous savez, Philippe, je pense qu'il faudra qu'on regarde ce quinquennat quand il sera terminé, parce qu'il va se terminer forcément à un moment donné. J'espère que ça ne sera pas...
Il sera peut-être renouvelé.
En tout cas, il faudra qu'on regarde et qu'on s'interroge, et je pense qu'il faudra beaucoup d'études sociologiques et politiques pour essayer de comprendre ce qui s'est emparé de ce pays, de la classe médiatique, pour passer autant de choses à ce jeune homme qui est Emmanuel Macron. C'est un vrai sujet.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix, les chroniqueurs et leurs invités. On continue avec un extrait de la matinale de jeudi. Pour le petit déjeuner politique, Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient l'ancien Premier ministre Manuel Valls, venu présenter son dernier livre « Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». L'occasion de donner son avis sur les dernières mesures annoncées par Emmanuel Macron lors de son allocution du 31 mars dernier. Écoutez.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus.
7h41, le petit déjeuner politique. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls, ancien Premier ministre, conseiller municipal de Barcelone, auteur de ce livre « Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines » aux éditions Grasset.
Oui, bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
On va évoquer votre livre dans un instant parce que c'est une sorte d'inventaire de votre vie, marqué par des souvenirs d'enfance, engagement politique, combat pour la laïcité, la République et aussi des coups de cœur pour des lieux, des personnalités, des passions entre culture et football. Vous avez regardé le match quand même hier soir.
J'ai regardé le match, c'est ma passion pour le football et pour l'équipe de France.
Et pour l'équipe de France, qui a gagné, mais c'était laborieux. L'actualité, alors c'est évidemment aussi ce matin les annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez perçu de la clarté sur ce qui est demandé aux Français, c'est-à-dire des efforts supplémentaires, a dit le chef de l'État ?
Parlons vrai, c'est le slogan très rocardien d'ailleurs de Sud Radio. Le président de la République est sur une ligne de crête. Ne rien faire aurait été irresponsable face à la montée indéniable, face à l'étendue du virus et notamment du variant anglais en France et dans d'autres pays. Confiner comme il y a un an aurait été insupportable pour la grande majorité de nos compatriotes. Et puis, disons-le aussi nettement, tant que la population n'est pas vaccinée, tant qu'on ne produit pas plus de vaccins et tant qu'on n'administre pas plus de vaccins au pluriel d'ici l'été ou juste après l'été, la stratégie, si je puis dire, et je mets des guillemets, elle est forcément une forme de pilotage à vue, et c'est ce qu'on ressent. Hier, sans doute, le président de la République a donné, c'était important, me semble-t-il, plus de perspectives en termes de calendrier, peut-être sur des ouvertures, sur les terrasses et les restaurants, et surtout sur la campagne qui doit être puissante pour pouvoir vacciner au maximum nos concitoyens. Donc c'est forcément un exercice extrêmement difficile, d'autant plus que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu des allers-retours. Ouais. Ce stop and go, comme on dit, est lié tout simplement à ce que le virus... sa progression étonne forcément.
On n'est peut-être pas très, très bien organisé. Vous avez connu, et vous l'écrivez un petit peu aussi quand même, les rouages de l'État, bien sûr. On a un système qui est trop lourd, et là, on a toujours du mal à s'adapter, quoi. Même un an après, non ? Vous n'avez pas ce sentiment ?
Oui, d'abord, il faut être modeste, précisément, face à ce virus. Jusqu'au début de cette année, aucun pays, je mets de côté la Corée du Sud ou Taïwan et évidemment la Chine, mais aucun pays, même Israël, tant qu'on n'avait pas vacciné massivement les populations, n'a bien fait les choses. Aucun. On l'a bien vu parce que c'est extrêmement difficile. Et parce qu'on
L'Asie, sait pas, mais on c'est autre chose. Quoi.
Oui, c'était autre chose. Mais en Europe et aux États-Unis, en général, les choses ont été très compliquées. Il y a, en revanche, une forme sans doute de blessure dans l'orgueil national. Mais ça, il faut en tirer sans doute les leçons, les conséquences. C'est que nous n'avons pas notre vaccin. C'est-à-dire qu'alors que la France... capable de produire des vaccins, elle le produira, mais tard, entre Sanofi, l'Institut Pasteur, etc., notre propre industrie, vous savez, moi j'étais maire d'Evry, là-bas il y a le Génopôle, qui est très avancé dans tout ce qui est l'innovation, notamment sur le plan de la santé, là il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc...
Oui, à propos de politique, qu'est-ce qu'en politique il faut savoir reconnaître ses erreurs ? Emmanuel Macron ne l'a dit que du bout des lèvres hier soir.
Oh, ce sera sans doute à la fin de cette période qu'il faudra faire un bilan. Moi, j'avais trouvé, par exemple, que la communication d'Édouard Philippe, il y a un an, celle du Premier ministre, donc, était basée sur, au fond, la réalité. Il y a des choses que nous ne savons pas. Ouais. Nous ne connaissons pas tout. Oui, il y a eu des erreurs. Chacun a voulu prendre l'exemple d'Angela Merkel. Ouais. C'était aussi utilisé pour la mettre en contradiction avec la communication du président de la République. Mais comme la communication du président de la République, par essence, elle est solennelle. Ce n'est pas une conférence de presse, comme président du gouvernement espagnol ou la chancelière allemande. Évidemment, ça prend tout de suite. Donc, ce n'est pas facile, j'imagine, de faire des mea culpa dans ce moment-là. Mais attention, parce que dans cette crise démocratique de confiance que nous vivons et que je traite aussi dans le livre, cette crise évidemment sanitaire, économique, sociale, anthropologique, psychologique, parce qu'on ne connaît pas. Je suis quand même inquiet, par exemple, du retard à cause du décrochage que risquent de connaître beaucoup de nos élèves, du retard que nous allons prendre par rapport à l'Asie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études aux États-Unis et en Europe qui le démontrent.
Il y a un déclassement qui est en cours de la France, certains économistes le disent, d'une façon générale.
Moi, je n'aime pas beaucoup ce débat, mais le risque, c'est évidemment dans le monde d'aujourd'hui, avec la puissance chinoise, capacité encore des États-Unis d'Amérique, c'est qu'il y a en effet un décrochage éducatif, culturel, scientifique de l'Europe. Mais je pense que nous avons les moyens, l'argent. Écoutez, c'est un des points positifs, c'est que l'Europe et la France ont énormément soutenu, et encore aujourd'hui, notre économie. Je dis ça parce que je peux faire la différence entre l'Espagne et la France, par exemple. C'est une des raisons pour lesquelles, en Espagne, on veut retrouver la vie très très vite, et pour ça, les restaurants sont ouverts, par exemple.
Ils sont plus disciplinés, les Espagnols, d'ailleurs.
Je ne sais pas s'ils sont plus disciplinés, très honnêtement, mais en tout cas, ils ont moins de moyens financiers. Beaucoup moins. Un restaurateur, là-bas, c'est 2000 euros, ici, c'est 12 000, donc de soutien, d'aide. Donc, on voit, c'est un ordre de grandeur, bien évidemment, on voit bien les différences. Donc, je pense que l'Europe a les moyens, à condition de se donner, et on l'a bien vu que sur les vaccins c'était difficile, une stratégie autonome en matière d'agroalimentaire, de santé, de batterie, de composants, d'industrie, d'investissement dans l'avenir, tout simplement, la recherche et l'éducation, bien évidemment.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger, Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Et ne bougez surtout pas, on revient dans quelques minutes avec André Bercoff et son invité, le président des Patriotes, Florian Philippot. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner chaque week-end. Avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et son invité Florian Philippot, on va s'écouter le dernier titre de Camille Lelouch, un titre engagé contre les violences faites aux femmes avec des paroles choc pour sensibiliser. Voici N'insiste pas sur Sud Radio.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas, sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. N'insiste pas. J'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, ouais. Je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. N'insiste pas, il est temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me... Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête.
N'insiste pas dans le meilleur de Sud Radio, le dernier titre de Camille Lelouch, extrait du premier album de l'humoriste qui paraîtra courant 2021. On poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. L'animateur recevait mardi le président des Patriotes Florian Philippot qui a poussé un coup de gueule sur la stratégie d'Emmanuel Macron dans la gestion de l'épidémie de Covid depuis un an. Et comme vous allez l'entendre, il n'a pas été tendre avec le président de la République et avec son gouvernement.
Le meilleur de Sud Radio.
Juste, rappelez quand même quelques chiffres. C'est vrai que vous avez raison de dire, une épidémie ce n'est pas 10 morts par jour dans un pays de 67 millions d'habitants, dans lequel meurent chaque année plus de 600 000 personnes. Où chaque jour, 60 personnes meurent d'accidents domestiques. Une maladie qui tue 1000 personnes par jour n'est pas la même quand elle en tue 100 fois moins. Et surtout, vous citez Hannah Arendt, et ça je crois que c'est toujours bon et sain de rappeler ce que disait Hannah Arendt là-dessus. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut pas se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. On en est là, Florian Philippot ?
On en est exactement là, mais exactement là. C'est injonction contradictoire permanente. Regardez, confinez-vous à l'extérieur, Gabriel Attal, ça c'est le troisième confinement. Mais par contre, pas à plus de 6, sinon vous avez une amende à 135 euros, et pas après 19h, heure du couvre-feu, sinon vous avez également une amende à 135 euros. contradictoire, incompréhensible. Tout est comme ça, hein, en réalité, depuis le début. Mmh. Et on sent bien que l'idée, c'est d'avoir, à la fin, bah, un peuple qui, lassé, fatigué, les gens le sont, hein, vraiment terriblement, bah, ouais, va s'en remettre à l'autorité gouvernementale et va obéir.
Ou à une autre autorité, enfin.
Oui, ouais, ouais, ou pseudo-scientifique, ou je ne sais quoi, ou à l'Union européenne, voilà, et va obéir, se soumettre et ne plus réfléchir parce que c'est fatigant, en fait. C'est ce qu'on appelle aussi du dressage, de la domestication. Mmh. Vous savez, la base du dressage, c'est la friandise et la réprimande.
Hein, la carotte et le bâton.
Oui, exactement, c'est ça. Mmh. Vous savez, l'orque qui saute dans les dolphinariums, je crois qu'ils sont interdits maintenant, et qui pourra aller taper la babale. Alors l'orque, je vous le dis tout de suite, l'orque, c'est le peuple français, hein, aujourd'hui. Mmh. Quand il le fait bien, bah, on lui donne une petite sardine. Mmh. Hein, ça peut être là, bah, la promesse de liberté demain. Mais quand il le fait mal, il ne va pas taper la babale, on lui donne une petite décharge électrique. C'est l'amende à 135 euros ou la menace, Véran qui vient vous gronder parce que vous vous relâchez avec ces mots de pion vis-à-vis de collégiens. Quoi.
Vous dites carrément dans le livre qu'il n'y a plus d'opposition.
Mais quasiment pas. Il y a des lanceurs d'alerte hyper courageux, mais souvent pas dans le milieu politique. Mais je veux dire, l'essentiel de l'opposition de la France insoumise au RN, en passant par les socialistes, les républicains, les verts, etc., ils ont accepté cette équation passeport sanitaire ou vaccination égale liberté. Mais je suis désolé. Moi, on m'aurait dit, ou bien traitement égale liberté. Je suis désolé. La liberté, c'est un absolu. C'est un absolu. À partir du moment où on y met une condition, le vaccin ou autre, alors on accepte tout derrière. Je veux dire, on considère que la liberté, c'est un absolu. À côté de ça, et ça n'a rien à voir, on gère sereinement une crise sanitaire. Mais ça n'a rien à voir. Et on la gère efficacement. On traite les gens, on laisse les médecins prescrire librement, etc.
Encore une fois, je me fais l'avocat de la défense. Ça n'a rien à voir, dites-vous, Florian Philippot. Mais quand même, ça a à voir. C'est-à-dire que moi, je veux bien, bon, mettons que je me vaccine, je crois au vaccin, je crois que ce vaccin aura des vertus. Enfin, ces vaccins auront des vertus, effectivement, thérapeutiques évidentes. Eh bien, je me vaccine. Mais si je risque d'être. Alors, vous allez me dire, oui, si je me vaccine, ben, je ne serai pas contaminé puisque je suis vacciné et que j'y crois. Mais les autres, si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas quand même entre eux, ne vont pas se clusteriser encore plus et tout ça? C'est-à-dire que le problème, c'est effectivement, vous vous dites, on doit avoir la liberté absolue de se soigner, j'explique, dans la perspective de ceux qui disent que le vaccin, c'est vraiment le meilleur des soins ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe dans cette histoire?
Mais non, si vous voulez, d'abord, le vaccin, moi je suis pour la vraie liberté vaccinale, voilà, oui. Chacun peut avoir le droit, fait ce qu'il veut exactement. Mais après, on nous dit déjà, vous savez, là vous avez vu, le Royaume-Uni annonce une troisième dose finalement contre le variant sud-africain à partir de septembre. On sait qu'il y a l'histoire des variants, bon, donc on ne sait pas très bien si ça va être efficace, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas s'il va falloir se revacciner tous les 6 mois, donc refaire son passeport sanitaire tous les 6 mois, enfin tout ça est délirant et inacceptable. Mais si vous voulez, à côté de ça, on ne peut pas mettre la pression sur un peuple en disant « vous ne pouvez plus vivre tant que vous êtes tous vaccinés ou vous avez votre passeport sanitaire ». Ça n'est pas possible. C'est une gestion pathologique d'une société. Parce qu'il y a des effets, il y a des dégâts collatéraux à dire cela. Un pays à côté qui ne vit plus, ce sont des dépressions. Je crois qu'on a dit que les suicides chez les moins de 15 ans, les tentatives avaient augmenté de 80%. Ce sont des catastrophes économiques et sociales. Et un pays qui est en récession majeure comme la France, il ne faut pas croire, derrière, ça veut dire un appauvrissement de la population, et y compris un appauvrissement du système de santé, une baisse de l'espérance de vie. Ce sont des étudiants qui sont dans un état épouvantable. Donc, non, moi je pense qu'il faut une rupture politique. Il faut à un moment dire, on rouvre tout de suite, on rouvre tout. On arrête ce masque
obligatoire. On fait à la Texas, à la Mississippi, à la Floride.
Il n'y a que ça de possible. Ouais. Tout autre. Je veux dire, il n'y a pas d'autre stratégie politique possible.
Mais on laisse tomber les masques, on ouvre tout.
Liberté, si les gens veulent les mettre, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je pense qu'il faut des masques pour nos médecins et nos infirmières et nos aides-soignantes, qui en ont manqué au début. C'était un scandale absolu. Ils avaient des sacs poubelles sur le corps, etc. C'était absolument scandaleux. Mais il n'y a que ça. Si on est là à quémander quelques libertés, laissez-nous un couvre-feu jusqu'à 20h, s'il vous plaît, monsieur le bourreau, ou laissez-nous ouvrir les musées, etc. Ça n'est pas efficace. Il faut prendre un moment une décision politique et dire le conseil scientifique, tout ça, on le dissout. D'ailleurs, à la base, ça devait durer jusqu'en juin 2020. Ça n'existe plus. Il y a déjà bien
le
des instances.
Le Conseil de défense aussi.
Mais bien sûr. Il y a déjà 1000 instances dans l'État français qui sont là pour la haute autorité de santé. Tout ça, ça existe. Il y a un ministère de la Santé. Il y a déjà des médecins pour conseiller, etc. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Et puis, on fait beaucoup moins venir les médecins à la télévision et à la radio. Ce n'est pas leur boulot. Ce n'est pas leur boulot. Les décisions qui doivent être prises, elles ne prennent pas en compte que le critère médical. Alors, il y a les critères éducatifs, culturels, de liberté, économiques, sociaux, etc.
Alors justement, revenons juste à la politique, Florent Philippe. Comment vous expliquez qu'effectivement, ça, c'est en tout cas une question qu'on voit, est-ce que toute l'opposition est persuadée qu'il n'y a que cette solution que le gouvernement a, c'est-à-dire la vaccination massive et définitive, en tout cas massive, sinon à répétition. Et comment il se fait, effectivement, qu'on a des critiques ? Parce que si, chez les Républicains, on entend des choses, chez vous, on entend des choses par-ci, par-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une opposition très résolue, y compris d'ailleurs à gauche, à la France insoumise et compagnie. Pourquoi, à votre avis ?
Ils ont tous accepté le schéma proposé. C'est-à-dire, tous, en réalité...
Mais pourquoi ont-ils accepté ?
L'opposition se limite souvent à des questions de calendrier ou de méthodologie. Ah, vous auriez dû confiner plus tôt. Ah, vous devriez mettre les masques gratuits. Bon, c'est ça, l'opposition. C'est-à-dire, en fait, on est dans la prison et on choisit de repeindre ces barreaux de prison en blanc, en vert, en rose ou en jaune.
Quoi. Ils n'ont plus l'ADN de la vraie véritable opposition.
J'ai même entendu Marine Le Pen dire « il faut fermer les écoles ». Enfin, je suis désolé, les écoles, l'instruction, ça n'est pas une variable d'ajustement sanitaire. Ça ne doit pas l'être. C'est le summum dans une civilisation et une société, l'instruction des générations qui viennent. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour la nation. Vous voyez ? Alors, pourquoi ils le font ? Soit ils y croient, probablement qu'ils ne travaillent pas assez. C'est une crise compliquée. Hein. Il faut lire des rapports scientifiques. Il faut écouter. Il faut regarder ce qui se passe à l'étranger. Il faut lire en français et en anglais. Il faut s'instruire.
Bon, faut travailler.
Faut travailler. Mais vraiment, je veux dire, on peut pas comme ça. Croire parce qu'il y a un type qui vous a pas donné ses conflits d'intérêts à la télé, un médecin qui vous dit le confinement c'est efficace et puis on le croit. Non, non, il faut s'instruire. Il faut regarder. Puis trois, c'est plus confortable. C'est beaucoup plus confortable d'avoir une mini-opposition, rouvrons les musées ou je ne sais quoi. Vous êtes beaucoup mieux traité à la télévision quand vous êtes sur ce type d'opposition que la mienne, qui est radicale et qui propose totalement une autre voie. Et puis, c'est plus confortable pour ceux qui auraient éventuellement des intérêts de carrière. Il y en a qui veulent être secrétaire d'État de Macron 2. Il y en a qui veulent être l'opposition chouchou de Macron et qui voudraient...
Tous les goûts sont de la nature.
Le rester, voilà. Tous les goûts sont de la nature, exactement.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h. Je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de lundi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus notamment sur le site d'action du week-end. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Coup de cœur, vos coups de gueule. Jean-Claude, on va commencer avec vous.
Oui, ben, y a eu le site d'action ce week-end. Près de 4,5 millions, espérons jusqu'à 5 millions, ont été ou pourront être récupérés pour la lutte contre le sida. Vous savez que c'est important parce qu'on a oublié à la fois le sida en France, l'épidémie du Covid nous a fait oublier le sida, et puis le sida dans le monde, puisqu'il y a encore... 30 millions de gens qui sont infectés, 12 millions qui attendent un traitement. Donc oui, c'est un coup de cœur pour pouvoir dire n'oublions pas tous les autres, n'oublions pas tous ceux et celles qui sont victimes de maladies moins connues. Voilà, il ne faut pas qu'on en arrive. Et là, je sais qu'il y a cette tribune, mais voyez-vous, on dit, est-ce qu'on va devoir trier ? Aujourd'hui, en réalité, dans le monde, nous trions déjà les malades, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de tas de maladies, par milliers, par centaines de milliers, et nous ne sommes pas suffisamment attentifs au choléra, nous ne sommes pas suffisamment attentifs à un certain nombre de maladies sur notre planète. Et là, il faut que nous soyons capables nous-mêmes de revenir à une certaine forme d'humanité. Parce qu'en plus, vous savez, pendant très longtemps, on s'est dit, nous, en France, on est bien. On voit bien avec une pandémie comme celle-là qu'il ne suffit pas. C'est encore pire. Parce qu'évidemment, humainement, ça n'était pas acceptable comme discours. Mais on voit bien qu'avec cette pandémie, nous dépendons des autres. Donc l'équilibre des autres dépend aussi de nous. Et là-dessus, nous devons faire un effort.
Mais il faut aussi avoir les moyens. C'est aussi une question de moyens. Ou que ce soit dans le monde.
Vous avez raison, mais attention, vous voyez par exemple, on a dit le quoi qu'il en coûte. Je pense que, bien sûr, la question d'argent est importante. Vous savez, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le fait de dire aux autres que nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe. Nous pouvons, avec des moyens limités, essayer d'insister sur la recherche pour un certain nombre, je ne suis pas médecin, pour un certain nombre de maladies qui font encore lésion et qui disséminent beaucoup. Ouais, donc ça n'est pas qu'une question d'argent. Ce que je veux dire ici, et là encore, on ne refera pas la politique de santé de l'OMS, mais ce que je veux dire ici, c'est ce coup de cœur, c'est n'oublions pas les autres, ça nous ramène un peu d'humanité. Voilà.
Bon, et je vous conseille la série It's a Sin sur Canal+, pour ceux qui ont Canal+, qui est une très bonne série britannique qui raconte l'arrivée du sida dans les années 80, et on voit le choc que ça a été et l'inconnu que représentait ce virus. Très bonne série. François Monbois, c'est un coup de cœur.
Oui, c'est un coup de soutien à Boris Johnson, parce que je trouve que le débat en France fait presque de Boris Johnson le responsable de tous nos maux. Il y a eu des propos très durs de Jean-Yves Le Drian qui disait en gros, ils ont voulu jouer au fin en vaccinant avec une seule première dose le maximum de gens. Ben maintenant, tant pis pour eux, il leur faut la deuxième dose. C'est un peu ridicule. Il faut se souvenir qu'il y a un an, quand l'épidémie a commencé, le Brexit était voté, mais pas encore appliqué. Et il y a eu beaucoup d'articles et de prévisions. Il y avait un grand article dans le Guardian qui a fait beaucoup de bruit, disant « les Anglais n'auront pas de vaccin ». Parce que les Anglais vont se retrouver tout seuls à négocier et l'Union européenne, à 27, aura des vaccins. Et donc, il y avait un stress en Angleterre de ne pas avoir de vaccin du tout. Quand Oxford a commencé à discuter avec AstraZeneca sur le vaccin, le gouvernement anglais a mis de l'argent sur la table, a passé des commandes fermes, et c'était en avril déjà. Et donc, ils ont effectivement demandé à être servis les premiers, mais je dirais qu'on les comprend. C'était pour s'assurer d'avoir des vaccins. À l'époque, nous, on n'était pas du tout dans les vaccins. Il y a des vidéos redoutables qui circulent d'Emmanuel Macron le 1er octobre, qui dit « ceux qui vous promettent un vaccin au printemps vous mentent
».
En octobre, on disait ça en France. Et en décembre, dans l'interview à Brut, le président dit encore « bon, le vaccin, OK, il y a des effets secondaires ». Enfin, on n'y a pas cru, nous, en Europe. Donc, je trouve ça un peu bizarre d'aller engueuler les Anglais. Les médecins français disent qu'en fait, il a eu sans doute raison de faire une dose à deux personnes plutôt que deux doses à une seule, parce que l'augmentation des anticorps se produit déjà avec une dose. Donc, c'est bien, ça marche. Je trouve ça un peu ridicule de lui en vouloir. Maintenant, il faut qu'on s'entende pour les commandes, mais... On en fait le coupable de ce qui se passe et je pense que c'est pas vrai.
Oui, mais qu'ils ont réussi d'une certaine manière, en tout cas, pas d'une certaine manière, qu'ils ont réussi,
ils ont cru. Ils ont cru dans la science, ils ont investi.
Macron a dit qu'on a manqué de folie.
C'est pas on a aussi d'excellents scientifiques et malheureusement si à l'Institut Pasteur on n'avait pas eu le pire des disputes bureaucratiques complètement folles avec des caciques administratifs qui se disputent les uns les autres au point de priver un pays qui est censé être une des 6 ou 7 premières puissances mondiales de vaccins et alors qu'on a une recherche d'excellence depuis des années, notamment dans le domaine médical. Et quand on parle des big pharma, il y a des big pharma qui sont des big pharma françaises et il y a des très bonnes start-up médicales françaises. Donc on voit quand même qu'il y a eu un très grave dysfonctionnement chez nous. Mais sur la question britannique, ce qui est très intéressant en réalité, c'est que les gens qui nous expliquent depuis des années qu'en étant chacun chez soi, en fermant les frontières, en n'ayant pas de coopération les uns avec les autres, etc., tout ira mieux, et que les murs valent mieux que les ponts. Moralité, les Anglais ont négocié avec leurs partenaires historiques, les États-Unis à l'époque, a fortiori avec des relations entre Trump et Johnson qui étaient au beau fixe. Donc Trump a quand même beaucoup aidé. Les Britanniques disposaient d'AstraZeneca parce que c'était une fabrication britannique dès l'origine. Et donc, quand même, on voit bien que le repli sur soi, l'insularisme, j'ai envie de dire, et le fait de penser que le repli souverainiste va nous sauver de tous les maux ne fonctionne pas du tout.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. On va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Cédric Cizer qui a répondu comme d'habitude en humour à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Et avant de retrouver la chronique de Cédric Cizer, on va s'écouter un titre de 1979 du regretté King of Pop, Michael Jackson. Balade disco à la rythmique endiablée, c'est évidemment un véritable tube qui montre toute l'étendue vocale de l'artiste. Voici Rock With You sur Sud Radio. Dans le meilleur de Sud Radio, l'un des plus grands tubes de Michael Jackson, deuxième single extrait de son album Off the Wall. Comme chaque week-end, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizer. Mardi, il a répondu à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio et il en a profité pour faire un clin d'œil à Céline Dion qui fêtait ses 53 ans ce jour-là. Écoutez.
Et s'il avait autant de cheveux que d'humour, eh ben aujourd'hui, il serait très heureux.
Je serais Michel Polnareff. Bonjour mes chers compatriotes. Vous allez bien ?
Oui, ça va.
Aujourd'hui, je peux enfin commencer une chronique avec le sourire.
Ah bon, c'est bien.
Ouais, parce que c'est l'anniversaire de ma chanteuse préférée, la plus grande chanteuse du monde, celle qui a déchaîné les foules de Bercy, du Stade de France ou encore de Las Vegas.
Oh là !
La Rousseau. Ouais. Non, pardon, excusez-moi, je plaisante. C'est l'anniversaire de celle qui chante ceci.
Ah, Céline Dion.
Et oui, Céline Dion qui chantait la bande originale de ce film mythique, Les Bronzés 3.
Non,
Titanic. C'est pas Les Bronzés 3.
Titanic.
Ah, Titanic, c'est vrai.
Ça s'est écroulé comme Titanic d'ailleurs,
Les Bronzés 3. Ouais. Mais, c'est vrai, 10 millions quand même de spectateurs. Alors, Titanic.
Oui, mais déception. Mais bon,
c'est vrai, malheureusement. Alors, combien de slow j'ai dansé sur cette chanson de Titanic à l'Eldorado à Agen. Bon, Titanic, c'était le bateau. Moi, c'était les râteaux. Voilà.
Ça rime, c'est bien, c'est
poétique. Ça rime, j'aime beaucoup. Titanic, qu'on a tous voulu voir alors qu'il n'y avait aucun suspense pour la fin.
Non.
Mais aucun suspense. Ouais. Rien à voir avec le Covid qu'on n'a pas voulu voir alors qu'il y a un suspense énorme pour la fin. Vous voyez, c'est ça. Ça change un petit peu. Mais c'est vrai que c'est comme le Titanic. D'ailleurs, Titanic, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est le dernier film qu'on a vu au cinéma à tous. Ouais. C'était le 11 mars 1998. on connaît assez peu d'où vient Céline. C'est vrai que Céline, on ne sait pas d'où elle vient. Elle est née à Charlemagne.
Vous connaissez ?
Oui.
C'est une ravissante bourgade du Québec, située entre Pépin-le-Bref et Vercingétorix.
Ouais.
Et j'ai remarqué un truc, ma chanson préférée de Céline Dion, c'est celle-là.
On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi.
Elle est belle cette chanson. Hein.
Oui,
on
oui,
ne change vrai. Pas, c'est marrant de chanter une chanson, on ne change pas quand physiquement on a fait autant de travaux. Je trouve ça très bizarre.
Oh non,
mais elle est magnifique, bien. Franchement, ouais, elle est magnifique maintenant, Céline. Ouais. C'est René. René, c'était le meilleur architecte du Québec, de toute façon. Il a tout refait, les dents, le nez, les ongles des pieds. Céline, c'est la seule personne qui paraissait 50 ans à 16 ans et qui en paraît 16 à 50 ans. Mmh. Tellement qu'elle a changé, tu regardes la photo de son permis, t'as l'impression que c'est pas Céline Dion, mais Céline Fion.
Ouais.
Mais elle a complètement changé.
Écoutez.
Mais si, il n'y a qu'une chose qu'elle n'a pas retouchée, c'est sa voix magnifique. Et je sais comment elle a réussi à se forger une voix aussi puissante. Céline Dion, c'est la Benjamine, vous savez, de combien de personnes ?
Non.
De 14 enfants. C'est la Benjamine de 14 enfants. Et quand t'es à table avec 16 personnes, t'es obligé de hurler. C'est là que ça te forge la voix. La première chanson qu'elle a interprétée, ce n'est pas « Pour que tu m'aimes encore ». C'était « Pour que tu me passes le sel ». C'est quand même...
C'est mais ça,
oui,
d'accord. C'est
une... Et oui, il a fallu se forger. Et voilà, je parle de jeunesse, vous avez certainement entendu parler de cette excuse incroyable donnée par un adolescent de 16 ans qui a raté les cours. Et il a inventé qu'il n'était pas venu en classe. Pourquoi ? Parce qu'il avait commis 3 meurtres. Puis que sa fiancée s'était suicidée, c'est ce qu'il a dit.
C'est peut-être beaucoup, là.
C'est un peu trop, mais en tout cas, il y va à fond. Et un élève choqué par cette affaire a voulu absolument nous laisser un message.
Salut Cédric, c'est Raphaël, ça va mon frérot ?
Ça va.
Mais comment il est ridicule ce gars ! Faire croire qu'il avait tué 3 personnes pour rater l'école. Moi, quand je vais pas à l'école, je dis un truc crédible. Par exemple, hier, j'ai dit que j'étais pas à l'école parce que j'ai attrapé le Covid.
Ah oui.
Dans une partouze.
Non, mais non.
Ah non, mais Raphaël, mais Raphaël, mais ça va pas, mais c'est
ça
pas
va
possible.
Pas, il sait même pas ce que ça veut dire.
Mais heureusement d'ailleurs. Non, mais... Patrick, vous avez utilisé cette excuse.
Il a l'air
très souvent.
Il a l'air quand même de le savoir.
Ah,
parce
il
qu'il
vif,
le dit.
Il le dit très bien.
Très bien. Ouais.
Écoutez, il est en avance. Hein. C'est les Partouze Kids. On embrasse tous ces enfants. Alors, l'élève menteur en question, là, qui vient du sud de la France, il vient presque chez moi. Il vient de Orange, pas loin d'Avignon. Alors, l'élève menteur en question est magnifique parce qu'il pensait que s'il avait tué une seule personne, il aurait quand même dû aller en cours.
Ah bon, d'accord.
Donc il s'est dit, je vais avouer 3 meurtres plus un suicide,
oui.
Peut-être que j'aurai droit à une demi-journée de repos, vous voyez. Alors évidemment, la conseillère d'éducation l'a prévenu tout de suite la police. Tout de suite la police, et c'est là que le lycéen a avoué que c'était faux. Il est bête, hein, s'il n'avait pas avoué, il aurait été sûr de rater l'école pendant 30 ans. Il aurait été à l'école Jacques Mérine.
Oui.
Moi, quand je séchais l'école, je ne sais pas vous, hein, mais c'était pour aller kiffer à la salle de jeu. Lui, il sèche l'école pour aller kiffer au commissariat.
Ah oui.
Bon, je sais pas trop.
Chacun
hein,
ses délires.
Pas...
Hein.
Bien sûr, il s'éclate. Moi,
mais
je suis pour
pas
la
ça
parité.
Chez vous, hein.
Non, ne faites jamais ça. Moi, je suis pour la parité, mais je suis désolé, mesdames. Il y a une discipline où on sera toujours largement meilleur que vous, c'est les mensonges. Voilà, les mensonges. Et aussi, on est les meilleurs pour se faire choper. C'est ça qui est terrible. Et comme on est un peu débile, on continue. Vous voyez ça, on se fait choper, mais on continue.
Je trouve que ça change un peu.
Ça change un
peu. Ça change un peu de camp.
Et non, mais bien sûr. Hein, je sais pas. Vous avez donné une analyse politique et sociologique. Alors, c'est une période très difficile pour les enfants, vous avez vu, parce que le nombre d'enfants recevant de l'argent de poche a baissé de 4%.
Ah.
Je trouve ça dramatique.
Vous donnez plus d'argent de poche à vos enfants, Patrick ?
Bah, si. Pourquoi ? Si, mais,
vous
oui, même si ça a baissé de 4%.
4%.
Dans ouais.
Bah, oui, ça a baissé de 4%.
Alors, c'est énorme, 4%.
Ah, bah, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal.
Ouais, ouais.
Un papa bien connu des auditeurs de Sud Radio a immédiatement réagi sur mon répondeur.
Bah, j'imagine.
Bonjour, je suis Gérard Harpagon, j'appelle du Loir et trop cher.
Oui, bonjour.
Alors moi, je continue bien entendu à donner à mes enfants de 4 et 8 ans leur argent de poche.
C'est bien.
Ah, bah, parce que sinon, comment font-ils pour me payer leur loyer ? En bah, plus, 300 euros la chambre, honnêtement, c'est donné. Hein. Et là, je leur ai préparé un super repas.
Ah.
Ils paieront leur saucisse purée seulement 25,50 €.
Ah,
ça,
Gérard,
c'est un bon père.
C'est un bon papa, mais, oui. Mais il a raison de prendre
c'est
de l'argent.
C'est pas crédible, en fait. 25,50 € pour une purée
ah, saucisse. Bah, je vous emmènerai.
Ça dépend de la saucisse, Patrick.
Oui, ouais, d'accord.
Ah, bah, attendez, ouais,
vous connaissez bien les saucisses, mais le milieu de la saucisse.
Écoutez,
je vous félicite, on
je
fera
vous
une spéciale.
Sur cette discussion.
Exactement. Alors, quand j'étais petit, pour régler le souci de l'argent de poche, mes parents, ils ont adopté une solution que je conseille à tous. Ils ont cousu mes poches. Et comme ça, du coup, il n'y a plus de problème d'argent de poche. Il n'y a plus de poche. On ne peut pas mettre de l'argent dedans. Et quand on était enfant, pour avoir de l'argent de poche, on faisait quoi ? On développait plein de techniques d'escroquerie dignes de Christophe Rocancourt ou de Patrick Balkany.
C'est-à-dire ?
La pire des techniques qu'on a tous faites, c'est quand après avoir rangé les courses dans la voiture, on s'empressait de piquer le chariot pour aller le ranger avec les autres. On faisait style que c'était par charité chrétienne, alors qu'on voulait juste une chose, que notre maman nous dise. Garde les 10 francs, mon chéri. Vous avez tous fait ça, tout le monde a fait ça, et j'ai été blindé grâce
10
à ça.
10 centimes, pas 10 francs.
Ah, c'était une pièce de 10 francs à l'époque, rappelez-vous.
Pièce de 10 francs.
Mais bien sûr, pour mettre dans le caddie, et pour ranger, hop, on gardait les 10 francs. Eh oui, c'était magnifique, j'étais blindé grâce à ça.
C'était des billets.
Non, c'était des billets, vous savez, dans les chariots.
Ah, bon, d'accord.
Je me souviens pas pièces. De pièces de 10 francs.
Eh, parce que vous êtes de la génération un petit peu.
Si j'avais su.
Mais oui, on va y retourner. Alors, de toute façon, les enfants sont pas à plaindre. À 8 ans, ils ont déjà tous l'iPhone 12 et une Apple Watch. Alors que moi, à 8 ans, j'avais un talkie-walkie en pot de yaourt
et une montre Quatch. C'est comme une montre Swatch, sauf qu'elle donnait pas l'heure. Mmh. Voilà. Mais c'était une belle montre quand même. C'est une belle montre. Eh oui. Et dans la cour de primaire aujourd'hui, t'as l'impression d'être dans une boutique Apple. Donc voilà. Mmh. Et d'ailleurs, on parle des enfants, les enfants qui sont fans de Vianney. Élu 11e personnalité préférée des enfants, juste derrière Christian Quesada. Mais bien sûr, Vianney, c'est le genre idéal. Voilà, toutes les meufs sont amoureuses de lui, comme Corinne, ma mère, Anaïs, ma femme, Chloé, ma fille, et même Josiane.
C'est qui Josiane ?
C'est mon chihuahua breton.
Ah bon ?
Ouais, elle est folle de Vianney, comme tout le monde. Ah oui, et Vianney, il a tout. Il chante bien, il joue de la guitare, il a du succès, il a des cheveux, c'est le plus important. Il n'a qu'un défaut, c'est qui s'appelle, vous connaissez son vrai nom de famille ?
Non.
Il s'appelle Vianney Bureau. Bon, en nom de popstar. C'est pas terrible. Hein. Bon, ce soir, en live depuis le Madison Square Garden, Bruno Mars, Ed Sheeran et Vianney Bureau. Bon, c'est pas top, mais il faut bien qu'il ait un défaut. Il a annoncé qu'il réfléchissait souvent à arrêter sa carrière. Il a pas envie de faire de vieux veaux. C'est des vieux veaux, hein,
non,
qu'on
non,
dit.
Non, des vieux veaux.
Ah, excusez-moi, des vieux veaux. Excusez-moi. Il y en a un qui veut surtout pas que Vianney arrête la chanson. C'est notre Premier ministre. Il est fan de Vianney. Ah. Et en exclusivité, il réagit.
Française, français. Le gouvernement espère que Vianney n'arrêtera pas sa carrière.
Bien.
En effet, ce matin sous la douche, j'écoutais encore son plus gros tube, Casser la voix.
Ah là 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 là, Jeannot.
Bon, il faut qu'on s'organise, monsieur Premier ministre, vraiment sur la chanson.
On va
lui
faire écouter un petit extrait peut-être de Vianney.
De Vianney.
On va lui faire une compile. On va lui faire une compile.
En plus, ça peut lui parler, ça s'appelle Je m'en vais, son plus grand tube Vianney, donc ça peut parler à Jean Castex, on sait jamais.
Oh là 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 là, vous allez loin, vous.
Je vais trop loin, excusez-moi.
Vous voulez avoir des problèmes, vous.
Oui, j'aime bien les problèmes.
Vous voulez avoir des impôts supérieurs à ceux que vous allez payer normalement.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizère, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Merci d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Soyez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et respectez bien les gestes barrières. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.